Cette année, à l'Ascension, on a voulu faire quelque chose d'un peu différent. Et ce qu'on voulait vous proposer pour que vous puissiez profiter pleinement de cette retraite, c'est de vous donner l'occasion de vivre un peu ce que vivent les sémistes. Et donc, exceptionnellement, j'ai demandé, nous avons ensemble demandé aux professeurs de Chrétien en Mission de prendre une classe. Donc, vous aurez tous les différents professeurs qui enseignent à CEM cette année, qui auront une classe. À l'exception de Max, qui aura trois classes, parce que quand il parle, c'est forcément beaucoup plus long. Et alors, ce n'est pas par égoïsme qu'on s'est tout gardé, ou par orgueil, mais c'est pour vous permettre, de venir, si vous avez l'habitude de donner des classes, vous venez et vous profitez, mais aussi pour que tu puisses découvrir ce que les sémistes vivent au jour le jour. Et peut-être un cours, une heure de chacun des cours, et vous verrez, chaque prof a son style différent. Ce ne sera pas toujours quelqu'un qui parle ou un micro. Il y aura beaucoup de façons de faire différentes. Mais voilà pourquoi vous trouverez beaucoup de noms de professeurs de CEM sur ce programme. D'accord ? Alors, vous ne trouverez pas de page avec marqué « classe de Philippe », parce que ce n'est pas une classe que je vous propose, mais si vous voulez, un espace pour réfléchir et aussi pour partager, si vous voulez bien, et ça ne sera pas très long. Mais ce soir, il y a une personne qui n'est pas présente parmi nous parce qu'elle est partie préparer le feu, pour que le feu ne soit pas trop fort quand nous arrivons. Et ce soir, nous allons chanter et être ensemble autour du feu. Je vous propose quelques pistes de réflexion pour qu'autour du feu, au lieu de faire des chamallows, on ait des conversations au sujet de la grâce de Dieu. D'accord ? Donc, tu vas être autour d'un feu, tu vas en profiter. C'est toujours un bon moment de fraternité, mais n'hésite pas aussi à parler avec ton voisin et dire j'ai entendu cette question, j'ai entendu cette piste, et voilà ce que moi j'ai pensé. D'accord ? Donc c'est surtout pour lancer la discussion que nous sommes ensemble. Le feu est un symbole dans les Écritures qui est très présent pour nous parler de l'action de Dieu, et donc aussi pas mal dans nos chants. Alors là, j'ai besoin de l'aide des colons, puisque c'est aussi un chant qu'on a trouvé à la colo. Si je chante et si j'espère la raison de la paix qui règne en moi, c'est que Jésus l'opère. C'est toi, Jésus, mon seul roi. Si la joie en moi déborde, la raison de ce feu qui brûle en moi, c'est que Jésus l'accorde. C'est toi, Jésus, mon seul roi. Quand mes jours s'achèvent pour me joindre aux anges, que ma voix s'élève, t'offrant mes louanges, Jésus, tendre maître, à toi je me livre, toi ma raison d'être, ma raison de vivre, toi ma raison d'être, ma raison de vivre. Pour le pardon des offenses que tu m'offres quand je viens à la croix, je n'ai que reconnaissance. Jésus, mon seul roi, quand mes jours s'achèvent pour me joindre aux anges, que ma voix s'élève, t'offrant mes louanges, Jésus, tendre maître, à toi je me livre, toi ma raison d'être, ma raison de vivre, toi ma raison d'être, ma raison de vivre. À mon dernier jour sur terre, quand mon dernier souffle quitte mon corps, je vivrai dans la lumière. Tu mettras la mort à mort. Quand mes jours s'achèvent pour me joindre aux anges, que ma voix s'élève, chantant des louanges,
Jésus, tendre maître, à toi je me livre, toi ma raison d'être, ma raison de vivre, toi ma raison d'être, ma raison de vivre.
Vous voyez, par exemple, autour du feu, tout à l'heure, peut-être tu seras dans tes pensées, tu diras dans une petite prière à Dieu, en regardant ce feu, je pense, Seigneur, que tu es ma vraie raison de vivre, si tu te souviens de ce chant. Bon, le feu c'est un symbole qui a plusieurs significations dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Bien sûr, le premier qui nous vient peut-être à l'esprit, qui vient à l'esprit de nos contemporains, en tout cas, c'est celui du jugement. Comme le cas de Sodome et Gomorre vous vient peut-être à l'esprit, hein, c'est l'antidéluge. Je ne détruirai pas par l'eau, mais effectivement par le feu, cette ville a été jugée par Dieu. Jésus emploie aussi ce terme symbolique du feu de la Géhenne, hein, ou dans l'Apocalypse de Jean, de l'étang de feu, cet endroit dans lequel sont jetés les perdants de la guerre contre le Christ. Vous pensez peut-être aussi au livre des Nombres, dans lequel il y a des personnes qui sont consumées par un feu qui vient du ciel parce que justement, ils n'ont pas respecté la mission que Dieu leur avait confiée, qui était très précise. Mais si on réfléchit un tout petit peu, ce feu du jugement, qui certainement n'est pas notre sujet favori de discussion, il faut se souvenir que c'est aussi un symbole dans l'Ancien Testament de purification. Les flammes viennent purifier, rendre pur ce qui ne l'était pas. Elles viennent révéler ce qui est vraiment. Ainsi, ce qui est à détruire, le feu le détruit. Ce qui est à purifier, le feu le purifie. Je pense à la manière dont Paul parle dans son épître aux Corinthiens. On n'a pas le temps de faire l'exégèse de ce verset. Il est dit « Le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. » Dieu n'envoie pas le feu pour faire mal, mais pour révéler ce qu'est vraiment une chose. Si elle est solide, elle passera à travers le feu et en sortira plus belle. Si elle ne vaut rien, elle sera détruite par le feu. Jean-Baptiste, n'est-ce pas, a une parole qui est assez proche de cela. Il dit en Matthieu chapitre 3, il parle de Jésus évidemment, « Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint, dans l'Esprit Saint et le feu. » En une phrase, il vient de montrer que Jésus est venu donner l'Esprit sans mesure, mais il est aussi venu exercer un jugement, à la fois l'Esprit Saint et le feu. Nous devons peut-être donc, alors que nous sommes face aux flammes, ou nous serons face aux flammes dans quelques minutes, nous poser une question. Qu'est-ce que le feu purificateur du Christ, qu'est-ce que le jugement du Christ dira de moi ? Qu'est-ce qu'il révélera comme construction dans ma vie qui est solide ? Et qu'est-ce qui sera consumé ? Ce n'est pas une question pour nous faire peur, c'est une question pour nous encourager, parce que le Christ nous a donné du solide. Mais peut-être une réflexion personnelle ou un sujet de discussion autour du feu. Et peut-être c'est un chant qui résonnera dans ta tête.
Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or. Feu du fondeur, je saint, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir.
Dieu a fait de toi une pierre vivante dans la construction de Dieu, et... Le jugement de Dieu, c'est-à-dire la révélation de toutes choses, montrera à qui nous appartenons. C'est une bonne nouvelle. Le feu, c'est aussi un autre signe, une autre signification de ce signe. C'est celui de la chaleur et de la lumière. On va le voir dans quelques minutes. Le feu éclaire, il nous protège, il nous réchauffe quand il fait un peu froid comme aujourd'hui. En règle générale, les théophanies, c'est-à-dire les moments où Dieu manifeste sa présence, surtout à Israël, souvent, elle comporte l'image du feu. Vous vous souvenez peut-être de quelques théophanies, de révélations physiques, visibles, du Dieu invisible, qui contiennent du feu. Le buisson ardent, le mont Sinaï, la colonne de feu, colonne de nuée et de feu. Peut-être, ouais, je ne sais pas si à nouveau le feu et l'esprit se retrouvent là, mais Dieu entoure son peuple, n'est-ce pas ? Et cette colonne est de feu et elle empêche les Égyptiens de rejoindre le peuple. Ce n'était pas un jugement pour Israël, mais une protection. Ils étaient vraiment heureux, bénis d'avoir Dieu qui montrait sa puissance à travers cela. Bien sûr, c'est un feu qui brûle, mais ne consume pas l'arbre. Au contraire, il permet de révéler qui Dieu est vraiment, le Dieu éternel. Voilà pourquoi, dans l'Ancien Testament, une des lois du Lévitique, c'est la suivante. Un peu bizarre, peut-être. Le feu sur l'autel restera allumé, ne s'éteindra pas. Chaque matin, le prêtre l'alimentera en bois. Il y disposera l'holocauste et fera fumer les graisses des sacrifices de paix. Un feu perpétuel brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Pas seulement parce qu'il faut faire des sacrifices tous les jours, mais pour se souvenir de la présence de Dieu. Bon, quand la colonne de feu est devant toi, bien sûr, tu ne peux pas faire semblant que Dieu n'est pas là. Mais quand le signe miraculeux est enlevé, la flamme reste comme souvenir pour ceux qui croient, pour ceux qui ont reçu le témoignage de ce que Dieu a fait dans le passé. Bien entendu, ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas ? Parce que vous avez peut-être pensé à Élie. Élie au mont Sinaï, au même endroit, qui au lieu de recevoir une flamme, des tremblements de terre, un grand bruit et un buisson ardent, non, il reçoit la présence de Dieu dans un souffle fragile. Je ne sais pas comment traduire en français exactement ce mot. Les traducteurs se cassent les dents là-dessus, mais quelque chose de tenu. Et peut-être dans le feu, on entendra beaucoup de bruit, on verra quelque chose de magnifique, mais n'oubliez jamais. Chaque fois que vous voyez une petite flamme qui passe devant vos yeux, Dieu est présent. Dieu n'est jamais parti. Mais moi, parfois, je l'oublie. Parfois, j'ai besoin de quelque chose pour me rappeler sa présence. J'ai besoin d'un temps de prière, parce que sinon, j'oublie que Dieu est avec moi. J'ai besoin de mes frères et sœurs, parce que sinon, j'oublie l'amour que Dieu a montré pour moi. J'ai une question. Peut-être que ce sera un sujet de discussion autour du feu. Par quel moyen pratique te rappelles-tu de la présence perpétuelle et de la protection que t'offre Dieu ? Il n'y a pas une seule bonne réponse à cela. Peut-être que tu as quelque chose que tu peux m'apprendre, que je peux utiliser. Et puis le troisième point, je suis déjà à mon troisième point, ça va ? Ouf, vous dites ouf, je sais que vous dites ouf dans votre cœur. Mais avant d'arriver à ce point, il faut chanter. Ça aussi c'est un chant de colo, mais peut-être vous le connaissez.
Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer. Savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir. la confiance, aimer, se savoir aimer, brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant, trouver dans ma vie ta présence. Choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur. Savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur. Ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer.
Dans ce chant, on se souvient à nous, en même temps, de comment se souvenir, on pense à comment se souvenir, pardon, de la présence de Dieu, de reconnaître son pas, mais aussi on demande à Dieu de renouveler en nous un feu qui s'éteint. Le feu est aussi, dans la parole de Dieu, un signe d'unité et de propagation. Un seul feu composé de multiples flammes, à la fois différentes et qui font quand même en même temps partie du même feu. C'est Jésus qui utilise cette image, n'est-ce pas ? Oups. Il dit, il dit aux disciples, je suis venu apporter un feu sur la terre. Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Il ne parle pas de son jugement d'Israël. Il parle du feu de l'évangile. Il a hâte que l'évangile, au complet, le plan mystérieux et bienveillant de Dieu, puisse envahir le monde entier. Il sait le prix qu'il faudra payer pour l'allumer. Mais il a hâte que cela arrive. Pourquoi ? Parce que c'est pour toi qu'il l'allume et parce qu'il t'aime. Ce feu-là, c'est le feu que rien n'arrêtera. C'est le feu de l'Évangile. Jérémie avait déjà mentionné dans l'Ancien Testament que la parole de Dieu brûlait comme un feu en lui. Et c'était la même chose pour Jésus. C'est pas étonnant que sur le chemin d'Emmaüs, vous vous souvenez, il parle avec deux disciples. Et qu'est-ce qu'ils ont reconnu ? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous alors qu'il nous parlait en chemin ? Ce n'était pas le ton de la voix de Jésus, c'était le contenu de l'évangile qu'il leur donnait. Et toi aussi, ton cœur a brûlé, n'est-ce pas ? Ton cœur a brûlé de ce même feu de joie. C'est l'esprit que Jésus a déversé sur son peuple et sur le monde tout entier. Vous pensez peut-être à un passage, on va le voir dans quelques minutes. D'abord, je voulais vous poser une question, j'ai oublié. Trois points, trois questions à discuter autour du feu. Quel feu Dieu a-t-il allumé dans ton cœur ? Alors, vous allez dire, c'est l'Évangile. Mais pour quelle mission Dieu t'a-t-il rendu particulièrement fervent ? Moi, je serais intéressé de savoir pour quelle mission Dieu t'a donné une ferveur particulière. Et je serais content de prier pour cela. Peut-être vous pouvez discuter de ça autour du feu. Je ne pouvais pas ne pas chanter ce chant. Vous attendiez tous. Jésus veut que je veille, l'esprit bien disposé. Ma faible chair sommeille et succombe sans lutter. Mais ta fleur Mais Vous avez dit quand même que c'était un petit avant-goût de l'année de CEM. Et donc, je vais quand même profiter du micro qu'on me prête pour avancer un peu mon cours avec les sémistes. Il y en a dans la salle de cette année. Ah, vous êtes là, ouais. On est en train de lire le livre des Actes et des Apôtres. Et donc, forcément, vous pensez peut-être à un événement dans lequel le feu a à voir, c'est bientôt la Pentecôte, n'est-ce pas? Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Juste pour peut-être tuer dans l'œuf une idée reçue, mais malheureusement, je pense qu'elle est un peu fausse, l'idée que les disciples sont là, et bon, ils comprennent pas grand-chose, ils sont dans l'attente, mais une attente un peu, voilà, vide. Et puis, pouf, il y a un feu qui descend sur eux et ils sont remplis du feu de Dieu. Ils comprennent tout de manière magique. C'est pas ce que l'évangéliste nous dit. En fait, dans l'évangile de Jean, on sait que quand Jésus ressuscité apparaît aux disciples, il souffle sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Comment est-ce qu'il va leur donner l'Esprit Saint? Il va leur raconter l'évangile pendant 40 jours. Hein? Nous n'avons pas besoin d'être jaloux de ceux qui nous ont précédés parce qu'ils ont reçu un signe manifeste. Pourquoi ce signe manifeste de la Pentecôte? Eh bien, parce que Jésus avait dit, c'est pas encore le moment. Attendez, je vous enverrai un signe de puissance. Et quand vous le verrez, vous saurez que le moment est enfin venu pour que le feu se répande sous la terre. Quel meilleur signe donc que quelque chose qui descend comme des flammes, un feu qui descend sur eux. Jésus leur dit, ce feu que je suis venu allumer, vous pouvez y aller. Et Pierre se lève et dit ce qu'il savait déjà ce jour-là. Il n'a plus qu'à dire publiquement ce que son roi lui a donné l'autorisation de dire. Certes, il y a un côté miraculeux à cela. C'est pour eux qu'ils parlent en langue, n'est-ce pas? Pour la foule, mais aussi pour eux. Ils mettront un peu de temps à comprendre cela avant de saisir le fait que toutes les nations étaient invitées à recevoir l'Évangile. Mais ce signe ne manque pas de me frapper. Chacun d'entre eux a reçu comme une flamme, mais c'était le même évangile, c'était le même feu, c'était le même esprit qui se manifestait, qui manifestait la présence qu'il avait déjà établie en chacun et en chacune de ceux qui étaient là. Pourtant, cela leur confère une force extraordinaire. Vous savez laquelle c'est? S'ils ne savaient pas encore, la certitude que partout où ils iraient, Jésus était avec eux. Ils étaient unis et prêts en même temps à partir dans le monde. Dieu nous donne cette occasion. Il nous unit de villes, de pays lointains, différents. C'est le même évangile que nous partageons. Si nous nous l'échangeons, nous ne perdons rien. Et nous nous préparons à aller le donner à ce monde qui en a tant besoin. Je m'arrête donc là. Je vous propose quand même, avant d'y aller et pour clore notre temps, un chant qu'on ne chante pas très souvent parce qu'on ne fait pas très souvent des feux. Voilà. Donc là, pour une fois, on fait un feu de camp, on va en profiter. Je ne sais pas si vous le connaissez.
Souvent, pour faire un feu, suffit une étincelle. La flamme hésite un peu, puis tout brûle autour d'elle. L'amour tel cette flamme, il faut le protéger, le protéger. le propager, oui, dans mon âme. Ardents sont les charbons, si quelqu'un les rassemble, mais froid mort pour de bon, s'ils ne sont plus ensemble. Ta foi survivra-t-elle? Celui qui se croit fort, perd ses efforts, sans le renfort d'autres fidèles. De l'eau pour refroidir, au feu qui les rallume, le fer doit pour durcir, subir jusqu'à l'enclume. Au fond de la souffrance, Dieu prépare un moyen pour notre bien. Il nous maintient dans l'espérance. Pour lors, si l'on faisait une autre allégorie, la flamme et le creuset en ôte l'escorie. L'épreuve fait de même, en nous rendant plus purs, un peu plus mûrs, toujours plus sûrs que Dieu nous aime. Alors brûlons mon âme comme un feu dévorant, je suis devant le feu vivant, mon cœur s'enflamme.
Oui, notre Dieu est un feu dévorant et c'est une bonne nouvelle pour nous. Nous allons prier, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, s'il te plaît, bénis nos temps de conversation, de repos, de communion fraternelle. Béni sois-tu, parce que tu nous as donné au-delà de ce que nous aurions su te demander. Et nous le voyons ici à cette retraite. Au nom de Jésus, donne-nous repos et paix ce soir. Amen.